Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Gisèle Cage.
C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition du journal sur Radio Kapi. Voici le titre. Des crépitements de balles résonnent encore à Bukavu avec de scènes de pillage signalées au marché central des Kadutu et à la brasserie. Pendant ces temps, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, présente au 38e sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba, dénonce les affres de l'agression rwandaise dans l'est du pays et appelle à une solidarité accrue de pays africains. Crise pétrolière imminente à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'AFEC pointe du doigt la lenteur administrative de la DGDA, le faible débit internet et le non-respect des horaires de travail. Résultat, de nombreuses stations-service sont à sec. La cause opposant la RDC au Rwanda a été mise en délibéré le jeudi 13 février devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple à Arusha en Tanzanie. Un avocat représentant la RDC a salué le bon déroulement des audiences et a exprimé son admiration pour le niveau des plaidoiries des avocats congolais, Maître Jean-Paul Séguiobé. Et l'invité du journal, c'est tout pour les titres. Bonjour à tous. Comme vous le savez déjà, la ville de Bukavu est passée sous le contrôle du M23. Les éléments du mouvement rebelle y sont entrés sans résistance sous les yeux de la population. Peu avant leur arrivée, le militaire de l'armée régulière avait déjà quitté la ville. Depuis la nuit dernière, des tirs ont provoqué une grande panique parmi les habitants. Nous accueillons dans ce studio Ronelli Timbonera pour nous informer de la situation sur le terrain. Bonjour Ronelli.
Bonjour Gisèle Cage. Bonjour
voilà, à tous les vous suivez de près la situation militaire au sud Kivu. Pouvez-vous nous en donner un aperçu?
Alors, ce matin, Bukavu s'est réveillé dans un climat de peur. Des tirs ont été entendus dans plusieurs quartiers. En Gouba, par exemple, les habitants contactés par Radio Kapi ont signalé avoir entendu des tirs près de la frontière entre Bukavu et Changougou. Il est pour l'instant difficile d'identifier les acteurs impliqués dans ces échanges de tirs. Face à cette situation, de nombreux habitants sont restés chez eux, étant donné qu'Ngouba est une zone qui se retrouve proche du Rwanda.
Quelle est la situation concernant la présence de rebelles dans la ville? Sont-ils réellement à Bukavu? Est-ce que c'est confirmé?
Alors qu'il est, il me semble que cette présence, en tout cas rebelle, fait l'objet des discussions. Cependant, les témoignages et les vidéos qui circulent dans le groupe WhatsApp et réseaux sociaux montrent des hommes armés dans le coin stratégique. C'est notamment au niveau du gouvernorat, à la mairie de Bukavu, mais aussi à Kazingo, qui est une partie située à l'entrée de la ville, partie nord. En revanche, d'autres hommes en armes sont aperçus dans certaines avenues de Bukavu, sémant ainsi une certaine panique. C'est le cas par exemple de la route d'Uvira, où ces hommes armés ont été aperçus en train de voler dans certains magasins. Dans la commune de Kadutu, des scènes de pillage ont été enregistrées depuis hier soir et ces mêmes scènes se sont poursuivies jusqu'à ce samedi. Au marché des Kadutu, certains jeunes ont foncé le porte de certaines boutiques, emportant ainsi de marchandises avant d'incendier la bâtisse connue sous le nom de Coopéra. Et s'il faut quitter la commune des Kadutu pour monter vers la brasserie, là, quelques entrepôts situés dans la dite zone ont été pillés. Et ce matin, on pouvait voir deux personnes transporter des sacs de riz et d'autres produits depuis ces entrepôts à la place de l'Indépendance. Certaines boutiques ont été vandalisées hier soir. Ce matin, les habitants ont constaté que le porte de ces boutiques avait été défoncé. Voilà.
Alors, face à cette situation, quelles sont les réactions des autorités locales?
Alors, pour le moment, la plupart des décideurs ont quitté d'abord la ville. Mais face à l'ampleur de la situation, des appels au civisme se multiplient, appelant à une cessation des activités des pillages. C'est entre autres le ministre provincial de l'Intérieur, Foka Maïk, qui, dans un message partagé dans le réseau social vendredi soir, a invité la population à l'unité et à la protection des biens d'autrui. Donc pour le moment, toutes les activités, dont le chef-lieu du site Kivu, sont suspendues.
Merci Ronelli Timbonera pour toutes ces précisions.
Merci beaucoup Gisèle Cage.
Restons à Bukavu, partout où le AM23 est passé hier. Avant d'atteindre la ville de Bukavu, la situation est revenue donc au calme après une brève période de forte psychose. Suivez donc ce reportage de Radio Okapi présenté par Jude Bilanda.
À partir des Katana, porte d'entrée du territoire des Kabarés, après celui des Calais au sud de Kivu, nos sources renseignent que les rebelles n'ont pas fait face à la moindre résistance. Les derniers affrontements avec l'armée loyaliste se sont déroulés entre Loako et Luzira dans Calais. À Kavumu Centre, la population a assisté à la traversée paisible des combattants M23. Ils n'ont dérangé ni menacé personne, rajoutent encore les habitants que nous avons contactés à Miti, Muresa, Kavumu et Katana. À l'annonce de leur présence dans la ville de Bukavu, la population est restée prudente, terrée chez elle. Hormis certains jeunes qui se sont livrés aux actes de pillage, défonçant les portes des maisons commerciales par-ci par-là. Trois d'entre eux ont été neutralisés par d'autres jeunes hostiles à ce genre de comportement. Les radios locales n'ont pas émis ce matin à Bukavu et les pensionnaires de la prison centrale de Bukavu se sont évadés, y compris les 200 militaires FRDC condamnés hier même à la peine de mort par les tribunaux militaires des garnisons de Bukavu pour entre autres infractions, fuite devant l'ennemi au front des Niabiboué. Un peu plus loin de Bukavu, les armes ont crépité toute la nuit au sein de la poudrière tenue par le FRDC à Sicheke dans les territoires des Walungu, ce qui a plongé la population des environs dans la psychose au même degré que les habitants de Bukavu.
Nous l'avons déjà dit, la population a donc passé la nuit dans l'angoisse et se réveille ce matin avec la peur au ventre. Un habitant de Bukavu, joint par Rachel Kiesse, décrit la situation actuelle sur place.
Avec les informations que nous avons eues depuis Kavumu qui était tombé et après ils ont promis qu'à 17h ils seront à Bukavu. Et c'était la panique totale. Les boutiques étaient fermées, tous les bureaux. Toute personne a trouvé sa résidence. Et jusqu'à 18h, c'était le chaos, c'était déjà des balles. On pouvait m'écouter maintenant là, ce sont les balles. Maintenant là, c'est la guerre. Depuis 18h, 18h-21h, il y avait un peu de calme. Et de 21h, jusqu'à maintenant où je vous parle, la guerre. Ce sont des attaques sur toutes les positions de l'armée. Et on nous disait que les autorités provinciales avaient reçu l'ordre de quitter la ville depuis hier. Jusque là, on ne peut pas savoir où est-ce qu'ils sont. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pouvons attendre des autorités? Après, jusque là, du côté où je suis dans la ville, le centre-ville, on n'a pas eu le moyen de le voir. Mais ceux qui viennent de Kavumu, ils ont affirmé qu'ils les ont vus. Et jusque maintenant, nous pouvons affirmer qu'ils sont là. Pourquoi? Parce que ce sont des échanges de balles.
Alors que les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC, l'Agence des Nations Unies pour le réfugié ACER redoute un nouvel afflux des personnes déplacées. Le reportage rendu par Blaise Shindani Kambala.
Selon les HCR, ce mouvement de population pourrait être suivi par d'autres au fur et à mesure que les combats s'étendent. Alors qu'environ 100 000 personnes ont tenté de retourner dans leur région d'origine, où les maisons ont été endommagées et où les services essentiels sont rares, voire inexistants, de nombreuses autres restent bloquées dans des centres collectifs, des sites des personnes déplacées endommagées ou dans des communautés d'accueil. Selon les HCR, la peur des munitions non explosées, les maisons détruites et le manque des services essentiels sont des obstacles importants à un retour en toute sécurité des déplacés. Plus largement, la crise s'aggrave à mesure que les gens fuient vers des zones où l'aide humanitaire ne peut les atteindre en raison de l'insécurité. À cette fin, l'agence onusienne a appelé à une cessation immédiate des hostilités afin d'assurer la sécurité des civils, y compris des personnes déplacées. Le HCR a également exhorté toutes les parties à cesser les attaques contre les infrastructures civiles et à garantir un accès humanitaire sans entrave.
Dans le même chapitre, cette fois-ci en Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma, la population vit difficilement depuis le récent affrontement entre l'armée nationale et le rebelle du M23 survenu fin janvier, début février 2025. Malgré les efforts de nettoyage, Goma est submergé par les déchets, l'air semble irrespirable et la qualité de l'eau du lac pour la consommation des ménages reste préoccupante selon certains habitants. Chris Mukand.
L'eau propre à la consommation est encore une denrée rare pour plusieurs quartiers de la ville de Goma. Kasika Ndosho Katoy Mabanga, Bourgeois et plusieurs autres parties de la commune de Karisimbi ne voient pas l'eau couler au robinet. Les propriétaires de camions citernes que proposent à travers les quartiers de l'eau à vendre prennent le pas pour reprendre l'exploitation de leurs engins. L'association Tadji Initiative, qui y a offert gracieusement de l'eau aux habitants de ce quartier durant environ une semaine, dit que les moyens financiers sont épuisés. Alors qu'en défendant, les ménagères ont repris avec l'utilisation de l'eau non traitée du lac Kivu. Goma tente de maintenir sa réputation de ville la plus propre de la République démocratique du Congo. Chaque samedi, les habitants accomplissent les travaux communautaires d'assainissement. Les hautes herbes sauvages sont coupées, les caniveaux et drains sont curés. Cependant, aucun engin pour dégager les immondices. Les habitants se plaignent de la pollution de l'air, des odeurs fétides. On les croise à beaucoup d'endroits de la ville, attribuables à ces déchets non dégagés. Des senteurs de putréfaction continuent à envahir la ville de Goma, ce qui pousse certains habitants à toujours porter le cache-nez, redoutant attraper à tout moment une maladie qui favoriserait cet environnement irrespirable.
Et puis, sachez que devant le chef d'État africain réuni au 38e sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba, hier vendredi, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a mis en lumière les affres de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Elle a également appelé à plus de solidarité pour préserver la souveraineté des pays africains. Détail avec Blaise Chindani.
Dans son propos liminaire, Judith Suminwa a fait part de la préoccupation de la RDC face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Elle a expliqué que des milliers de personnes endurent des souffrances inexplicables à cause de la guerre et vivent dans une grande précarité et dans des conditions inhumaines et dégradantes. Devant les chefs d'État africains, la première ministre de la RDC a aussi accusé le Rwanda d'engendrer une nouvelle rébellion, notamment l'alliance fleuve Congo de Corneille Nangaa, pour renverser les pouvoirs actuels. Elle a également rappelé que l'occupation illégale d'une partie du territoire national par les troupes rwandaises sous couvert du groupe rebelle du M23 constitue non seulement un acte de guerre, mais aussi une menace pour la stabilité de toute la région. Elle a en outre appelé à plus de solidarité entre États du continent noir et a demandé au Conseil de l'Union africaine d'agir avec fermeté, insistant sur le fait que laisser cette agression sans réponse adéquate créerait un précédent dangereux pour l'Afrique. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a également pris part à cette rencontre.
À Kinshasa, le gouverneur Daniel Mbumba met en garde toutes les personnes qui menacent de troubler l'ordre public et de s'attaquer aux églises le dimanche 16 février. L'autorité urbaine affirme que toute personne qui oserait s'aimer des troubles ou tenter de piller le bien privé se heurtera aux forces de sécurité déjà mobilisées à cet effet. Suivez cet extrait choisi par Karine Topé-Ridassi.
Ma communication se veut une communication pour rassurer les Kinoises et Kinois que la ville de Kinshasa est en sécurité et dans la tranquillité. Je viens aussi renforcer les Kinois en vue de ne pas céder à l'intox, au message d'intoxication qui circule sur les réseaux sociaux, qui se veut prometteur de troubles, de manifestations. Et je rappelle par l'occasion que les communiqués suspendant toute manifestation publique, la surséance est encore de mise et nous rappelons toute personne qui va s'évertuer à aller à l'encontre de ces mesures, en tout cas les forces de l'ordre sont disposées à maîtriser toute forme de vandalisme et de troubles à l'ordre public. Nous demandons à ce que les commerces puissent plutôt tourner, mais également les églises puissent justement fonctionner, c'est-à-dire que tout fidèle, rendez-vous dimanche à l'église et aussi les gens qui administrent le culte puissent continuer à exercer leurs fonctions.
Retour au Nord Kivu, dans les territoires de Lubero. Au moins 70 corps sans vie ont été découverts vendredi dans la localité des Maïba. Selon la société civile locale, il s'agit des personnes enlevées le 12 février par des hommes armés non identifiés qui les auraient tués à l'arme blanche. André Kitenge pour les détails.
Les corps ont été découverts dans un bâtiment d'une église locale de la place au village de Maïba. Selon la société civile, les victimes, dont des femmes, des enfants et même des personnes du troisième âge, ont été retrouvées ligotées et décapitées. La même source indique que les auteurs de cet acte ne sont pas encore identifiés. Cependant, des sources concordantes dans la région suspectent les groupes armés locaux et les rebelles des ADF d'être derrière ce crime. Ces derniers entretiennent un climat de terreur et d'insécurité permanente dans cette région. La société civile exige l'ouverture d'une enquête pour identifier les vrais auteurs de ce qu'elle qualifie de, je cite, « massacre de la population ». Elle recommande également aux autorités militaires de déployer des soldats dans la région afin de protéger la population civile et mettre fin à l'activisme des groupes armés locaux et des rebelles des ADF. Contacté, l'administrateur du territoire de Lubero promet de s'imprégner de la situation avant de se prononcer. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
La Fédération des entreprises du Congo alerte sur une pénurie de carburant dans une lettre adressée au gouverneur de la province du Haut-Katanga. Selon le patronat congolais, cette situation a des conséquences à la fois endogènes et exogènes. En réponse, le gouverneur du Haut-Katanga a rapidement formulé de directives à la Direction générale de douane et accises pour remédier aux dysfonctionnements signalés par les pétroliers afin d'éviter une crise pétrolière imminente. Jean Gandou nous en dit plus.
Dans ce mémorandum, le président du patronat dans la province rappelle à l'autorité provinciale ce qui pourrait provoquer cette pénurie, entre autres l'engorgement à la frontière de Sakania, causé notamment par la lenteur administrative au niveau de la DGDA, le faible débit de la connexion Internet, le non-respect de l'horaire de travail par les agents de la DGDA qui devaient aller de 6h à 20h. À cela s'ajoutent les tracasseries administratives dont sont victimes les transporteurs. Il y a aussi les postes de péage situés sur la route des poids lourds à Lubumbashi où les camions passent beaucoup de temps, ce qui crée un engorgement de plus qui ne facilite pas l'acheminement rapide des produits pétroliers avec tous les risques d'incendie que cela comporte. Conséquence, de nombreuses stations-service ne sont pas approvisionnées en carburant. Il y en a qui vendent par intermittence et les autres ont tout simplement fermé parce qu'étant en rupture des stocks. Pour la FEC, les réponses idoines à toutes ces préoccupations pourraient sauver le meuble. Notons qu'il y a 2 semaines, une pénurie était constatée à Lubumbashi pour les mêmes causes. Une situation qui avait aussi créé la spéculation du prix d'un litre chez les revendeurs et le prix de la course en taxi ou taxibus était aussi revue à la hausse aux grandes dames de la population appelées à dépenser un peu plus que d'habitude. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans le territoire de Mahagi en Ituri, la population préfère utiliser la monnaie ougandaise, le shilling, au détriment du franc congolais, boudé par les commerçants. Tous les prix des articles au marché et même dans les magasins sont donnés en shilling ougandais. Une situation qui inquiète la société civile locale qui s'en remet à l'autorité compétente. Sadiki Aboubakar est sur place à Mahagi. Voici son reportage.
Combien?
3 000 shillings.
3 000 shillings, de combien de francs?
23 000 francs.
Il s'agit là d'un taximène moto qui fixe le prix en shilling ougandais. Pourtant, d'après lui, le franc congolais est presque égal au shilling pendant les transactions, mais comme tout le monde, il préfère utiliser la monnaie ougandaise au détriment du franc congolais. Mais quelle est la vraie valeur du franc congolais à Mahagi? Mpula Ismaël est un cambiste.
Le franc congolais au niveau de Mahagi c'est trop bas. Donc la monnaie qui domine c'est shilling ougandais.
Qu'est-ce qui explique ce paradoxe?
8 000 francs c'est 10 000 shillings ougandais. Au marché 1 000 francs égale 1 000 shillings ougandais. La raison est que nos mamans ne connaissent pas utiliser le taux de franc congolais. Ils arrondissent seulement.
La monnaie étant un élément de la souveraineté d'une nation, la société civile demande aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour imposer le franc congolais sur toute l'étendue du pays, sans aucune exception. Depuis Mahagi, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Dans la province du Congo central, une hausse vertigineuse de prix de l'huile de palme est observée dans plusieurs localités. Le prix d'un bidon de 25 litres est passé de 30 à 60 000 francs congolais, soit le double du prix initial. Cette information fournie par Joseph Mabanga, un agriculteur du territoire de Tchela, où l'huile de palme est produite, est confirmée par l'administrateur du territoire, Igo Mavumbu. Selon eux, cette hausse est due à la rareté du régime de noix de palme chez les agriculteurs causée par l'achat massif de noix de palme par une nouvelle usine de production d'huile de palme à Tchela depuis 3 mois au grand désavantage des producteurs locaux. Nana Plurich Mambo.
D'après Joseph Mabanga, à Thiel à ces jours-ci, le prix d'un bidon d'huile de palme est passé de 30 à 60 000 francs. À la base, la rareté des noix de palme. Un tas de 50 noix de palme passe de 150 à 800 francs. Une situation qui impacte directement les quotidiens des habitants de Thiel, habitués à faire plusieurs repas à la base des extraits de noix de palme qu'ils appellent communément la moambe. Témoignage de Joseph Mabanga, l'un des agriculteurs locaux.
Le bidon d'huile de 25 litres est passé de 30 000 dans certains coins, 35 000 à 60 000 francs. C'est inimaginable. La cause, c'est la société Congo Fitir, cette société de Libanais qui a commencé à acheter à 3 mois le régime de noix de palme dans les villages. C'est l'enfer.
Contacté, l'administrateur des territoires de Thiel a indiqué que cette rareté de noix de palme s'est fait sentir depuis qu'une nouvelle entreprise de production d'huile de palme à Thiel a démarré ses essais. Igom avant vous laisse entendre que cette nouvelle usine s'est lancée il y a de cela 3 mois dans l'achat à un bon prix de plusieurs régimes de noix de palme. Et depuis, les producteurs locaux d'huile sont désavantagés et ils ne savent plus acheter les noix de palme. Matadi, Nana Purish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Togo, premières élections sénatoriales pour lancer le régime parlementaire ce samedi. Pour la première fois, 41 sénateurs sur 61 sont élus par les conseillers municipaux. Le 20 restants seront désignés par le président de la République. C'est une étape importante dans la mise en place des institutions de la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024 qui a fait basculer le Togo dans une 5e république. L'enjeu de ces élections sénatoriales, le renforcement de la démocratie, selon Senibia Yamo Kapo, enseignant-chercheur à l'Université de Kara. 89 candidats sont donc en lice pour les 41 sièges à pourvoir ce samedi par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux.
L'invité.
La cause opposant la RDC au Rwanda a été mise en délibéré le jeudi 13 février devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple à Arusha en Tanzanie. Dans ce procès, Kinshasa accuse Kigali de perpétrer diverses exactions sur les populations civiles dans l'est de la RDC. Invité de Radio Kapi, l'un des avocats représentant la RDC, dans cette affaire a salué le bon déroulement des audiences et a exprimé son appréciation quant au niveau des Ludoiri, des avocats congolais. Maître Jean-Paul Seguiobé s'est entretenu avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour professeur Jean-Paul Seguiobé.
Bonjour Blaise.
Alors, vous faites partie du conseil des avocats de la RDC au procès RDC Rwanda à Arusha devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Comment avez-vous jugé le déroulement de ce procès?
Le Rwanda avait soulevé des exceptions préliminaires par rapport à la compétence de la Cour. Nous avons plaidé sur ces exceptions. La journée du 12 était consacrée à la question de la compétence. La journée du 13 février a été consacrée à la question de la recevabilité. Je dois dire dans l'ensemble que tout s'est bien passé. À la Cour, c'est quand même assez de niveau élevé. Les débats étaient nourris, techniques. Je dois dire que ce fut quand même des bonnes audiences d'un niveau assez élevé.
Vous êtes juriste de formation et avocat de profession, professeur. Comment réagissez-vous face à l'argumentaire du Rwanda qui estime que la requête de la RDC violerait l'acte constitutif de l'Union africaine?
Nous avons démontré que toutes les exceptions que soulevait le Rwanda, et en l'occurrence elle est là, et elles étaient faibles en fait, parce qu'on a démontré à la Cour qu'il y avait absolument compatibilité avec l'acte constitutif de l'Union africaine. Cela a été dit aujourd'hui, répété. Conclusion finale que nous avons eu à développer aujourd'hui, on a démontré que sur toute la ligne, les exceptions rwandaises devaient être rejetées. Mais alors il revient évidemment à la Cour de pouvoir décider.
Alors quand est-ce que la Cour a prévu de rendre son jugement ou sa décision?
Bon, la Cour nous a dit qu'elle pourra bien nous fixer la date. On ne sait pas encore, mais on espère que ça ne va pas traîner.
Est-ce que la RDC dispose-t-elle de preuves, des allégations à présenter à la charge du Rwanda devant cette Cour?
Nous ne sommes pas encore au niveau du fond. Le moment venu, la RDC pourra bien présenter toutes ses preuves. Mais ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. pour dire que les violations des droits de l'homme ont été commises par le Rwanda et les autres, les M23 et les autres structures que le Rwanda soutient de manière directe ou indirecte. Donc, on n'est pas à ce stade, mais on ne peut pas, en tout cas aujourd'hui, ne pas dire que les violations de l'homme sont nombreuses.
À ce stade, quelles sont les attentes du gouvernement congolais?
Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Il a mobilisé une grande équipe, je dois dire que c'est une équipe de haut niveau qui a pu plaider, et je pense que le niveau de plaidoirie aussi était d'un standard très très élevé. Je crois que le gouvernement devait être confiant. La Cour va se prononcer, c'est pas tout de suite, elle a pris la cause en délibéré, et puis elle va nous signaler le jour où elle va rendre la décision. Je dois préciser, nous sommes encore dans une procédure des exceptions. Donc on n'est pas encore arrivé au fond. Le Rwanda avait soulevé des exceptions par rapport à la compétence de la Cour et à la recevabilité de notre requête.
Quel message lancerez-vous aux victimes des atrocités de l'Est qui attendent beaucoup de ces procès et aux Congolais en général?
Nous pensons qu'il faut faire confiance en la Cour. Et en même temps, je pense aussi remercier le gouvernement de la République quand même qui a eu à initier cette procédure. Et donc je crois que c'est un message d'espoir et là, en la justice africaine, tant que la Cour se prononce sur ces exceptions qui ont été plaidées hier et aujourd'hui.
Professeur Jean-Paul Seguiobé, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup.
Maître Jean-Paul Seguiobé, l'un des avocats représentant la RDC, dont l'affaire opposant la RDC au Rwanda, s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Ce journal touche à sa fin sur Radio Kapi, à la mise en onde Polydor Basunga, à la coordination Blaise Jordan Shindani Kambala et à la présentation Gisèle Cage. Vous avez la possibilité de nous suivre sur notre chaîne WhatsApp, dont le lien se trouve sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et le compte X. Je vous retrouve demain sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.